Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du canal M. C'est lundi le 30 mars et le lundi, le Kiosque Magazine s'intéresse à la culture et à la société, donc à des magazines qui en traitent.
Oui.
Et pour vous faire une petite incursion dans ces magazines, nous avons ce matin autour de la table du studio Franceline Nuviard. Bonjour Franceline.
Oui, bonjour Roger.
Serge dit Sergio Hamelin.
Oui, bonjour, oui, Serge. Bonjour Roger.
Et Roger Roy et notre celui qui nous dirige en régie, c'est évidemment Jean-Sébastien.
Juan Sébastien.
C'est ça. Alors de quoi allez-vous nous parler, Franceline, ce
oui,
matin?
Oui, alors ce matin, mon premier sujet portera sur l'indignation. À partir de témoignages recueillis par Julie Stanton dans la revue Le Bel Âge de avril 2015. Et mon deuxième sujet s'intitule comme ceci, « La fée qui humanise les poupées ». C'est un texte écrit dans La Presse Plus par Alexandre Vigneault. Et ensuite, « Un cocon pour se sécuriser » par Marie-France Léger, toujours dans La Presse Plus.
Eh bien, moi, je vais vous parler d'auto neuve et d'occasion dans la revue Protégez-vous.
Ah,
oui, je vais vous parler à l'occasion du mois de la femme. C'était le 8 mars dernier.
Oui.
Bon. Eh bien, je suis femme. Ben, pas moi, là. C'est l'article écrit par Sophie Gagnon.
Bon, alors, c'est le mystère total. Pour ma part, je vais vous parler du monde des affaires, entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux. Connaissez-vous cette bibite-là? Non?
Tout à fait.
Oui, c'est ça. Et ensuite, quand le patron. C'est deux textes distincts, c'est dans l'actualité. Mais pour tout de suite, toujours dans l'actualité, mais dans une édition récente, celle du 1er avril. Et si le Canada donnait l'exemple? L'exemple en quoi, là?
Ça va bientôt.
C'est ça. C'est une entrevue qui a été menée par Yannick Villedieu auprès de Catherine Potvin. Et il en donne un compte-rendu dans l'actualité du 1er avril. Donc, le titre qu'on donne est... que je viens de dire, et si le Canada donnait l'exemple dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'une capsule, M. Villedieu commence son article par une capsule qui donne une bonne idée de ce que contient son article. Ce sont des lignes électriques qui doivent traverser le pays d'est en ouest, pas des pipelines, affirment 60 scientifiques de partout au pays. Pour faire du Canada un leader de la lutte contre les changements climatiques, ils ont conçu un plan. Le voici en primeur. Alors, l'interview, c'est Catherine Potvin qui est interviewée, et on peut se demander qui est-elle. Elle dit « Veillez à ce que la planète soit encore habitable quand sa petite fille sera grande, c'est l'idée qui habite la biologiste Catherine Potvin, 57 ans, de l'Université McGill. Je ne voudrais pas que ma petite fille me reproche de n'avoir rien fait, dit-elle. Et le Canada doit, affirme-t-elle, s'attaquer avec vigueur au changement climatique. C'est pourquoi elle a créé Dialogue pour un Canada vert, un groupe de 60 scientifiques qui propose un plan faisable et pragmatique pour un virage vers une société durable. Issus de plus de 30 universités de toutes les provinces, ces chercheurs représentent une quinzaine de disciplines, de la climatologie à la biologie en passant par la philosophie et l'architecture. Après 2 années de travail, le groupe a présenté son plan le 18 mars à Montréal dans le cadre du Salon international des technologies environnementales Americana. Catherine Potvin espère que ce document intitulé « Agir sur les changements climatiques au Canada, solution de chercheurs » alimentera les débats pendant la prochaine campagne électorale fédérale. Et qu'en décembre, à l'occasion de la grande conférence de Paris sur le climat qui réunira à peu près tous les pays, il inspirera la position canadienne quand viendra le temps pour les nations de s'entendre sur des réductions massives d'émissions de gaz à effet de serre, CO2 en tête. Catherine Potvin a l'habitude de ces rencontres internationales pour y avoir représenté pendant plusieurs années le Panama, où elle fait des recherches en écologie des forêts tropicales. Question que Yannick Villedieu lui a posée. Votre groupe ne comptait ni gens d'affaires ni politiciens. Avez-vous fait une opération d'universitaire détachée de la réalité? Réponse, il n'y avait pas non plus d'écologistes militants. Et c'était volontaire. Nous voulions nous appuyer sur des données de recherche et montrer à partir de celles-ci ce qu'on peut faire pour empêcher les conséquences néfastes du réchauffement. Quand j'étais négociatrice pour le Panama, j'ai appris qu'on commence par présenter un texte et qu'ensuite on peut se parler, argumenter, décider. Notre document sera discuté publiquement, ce qui pourra en faire un outil de débat, une sorte de livre blanc pour un Canada vert. Ça ne sert à rien d'être défaitiste. Nous mettons au contraire l'accent sur tout ce qu'il est possible de faire pour diminuer radicalement les émissions d'ici 2050. Radicalement, dit Yannick Villedieu, de combien? Elle répond de 80 % par rapport aux émissions de 2005. Comme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, nous pensons qu'il faut décarboniser l'économie, en arriver à ce que le secteur de l'énergie n'émette quasiment aucun GES. Sur quoi croyez-vous qu'on puisse agir? Il faut changer la façon de produire, de consommer l'énergie, électrifier les transports, changer les villes en repensant l'étalement urbain et mettre un prix sur le carbone. Question, vous voulez dire une taxe? Elle répond, un prix, soit au moyen d'une taxe qui touche tout le monde uniformément, comme c'est le cas en Colombie-Britannique, soit au moyen d'un système de droits d'émission et d'échange, c'est-à-dire une bourse du carbone, comme au Québec ou en Californie. Au gouvernement de choisir, mais il est essentiel de mettre un prix sur le carbone. Autre question, deux chercheurs britanniques ont calculé que pour limiter le réchauffement du climat au maximum souhaitable de 2 %, il faudrait jusqu'en 2050 ne pas extraire 80 % des réserves mondiales de charbon estimées actuellement, 50 % des réserves de gaz et 30 % des réserves de pétrole. Le Canada doit-il faire une croix sur son pétrole? Il faudrait laisser les combustibles fossiles là où ils sont, tant qu'on n'aura pas les technologies pour les extraire et les utiliser de façon propre, sans émissions de GES. C'est vrai pour les sables bitumineux, c'est vrai aussi pour le Québec, où l'on ne devrait exploiter ni le pétrole, s'il y en a à Anticosti, ni le gaz de schiste. Question, vous proposez de miser massivement sur l'électricité? Réponse, oui, pourvu qu'elle provienne de sources renouvelables, l'hydroélectricité dont le Canada est riche, mais aussi l'éolien et le solaire, pour lesquels nous avons un potentiel considérable. La beauté de l'hydroélectricité, c'est que les grands producteurs sont bien répartis dans le pays. Il faut donc construire des lignes de transport est-ouest, et pas seulement nord-sud, comme c'est le cas actuellement. D'ici 2035, dans 20 ans à peine, le réseau électrique canadien pourrait transporter 100 % d'énergie renouvelable. Ce sont des lignes électriques qui doivent traverser le pays, pas des pipelines. Dernière question, le gouvernement fédéral est pro-pétrole et peu enclin à écouter les scientifiques. Comment accueillera-t-il votre document? Ce n'est pas le gouvernement qui réglera seul le problème, ce sera une coopération nationale qui transcende les partis politiques et qui implique les grandes villes, les provinces et le gouvernement fédéral. Alors, et si le Canada donnait l'exemple en matière de réchauffement climatique? C'est l'opinion de Catherine Potvin et c'est Yannick Villedieu qui l'a rencontrée pour qu'elle expose son projet.
Alors, en 2010, l'écrivain français Stéphane Hessel publiait son manifeste « Indignez-vous ». Depuis sa parution, le livre a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans près de 100 pays. Et vous, qu'est-ce qui vous indigne particulièrement dans la vie? Alors voici quelques témoignages. André Mathieu, 70 ans, militant syndical à la retraite. Je rêve du jour où des centaines de milliers de gens de tous les pays se lèveront pour crier leur malaise face à la domination du dieu argent et s'uniront pour marcher main dans la main en scandant justice, honnêteté, partage. Je rêve du jour où les grands milliardaires et les petits actionnaires de l'univers chanteront en chœur et avec cœur « Ne tuons pas la beauté du monde ». Voilà. À 70 ans, j'ose encore croire que je peux rêver, car ma foi dans l'être humain, accompagné de l'espérance d'un monde meilleur, me fait lancer dans le vent ce petit message « Camarades du monde entier, indignons-nous ». Maintenant, Jean-Paul Lallier, 75 ans, reconnu comme un grand défenseur des arts et de la culture, il a été maire de Québec de 1989 à 2005. Ce qui m'indigne, c'est le multiple langage des hommes et des femmes politiques, à tous les niveaux, en particulier le discours et les actions sans éthique du du Premier ministre Harper, sa proximité avec la violence, la droite Bush américaine. C'est la complicité si évidente de notre gouvernement canadien à propos de l'évasion fiscale et de la tricherie qui fait partie de la loi des abuseurs des classes les plus faibles. Ce sont les profits des banques, honteusement claironnés tous les trois mois, avec des taux d'intérêt de 19 et 20% pour les sommes qui ne sont pas payées dans les délais. C'est la léthargie de celles et ceux qui, parmi la population, chez nous, pourraient et devraient réagir. Bref, ce qui m'indigne, c'est la société amorphe qui se laisse faire, faute de savoir mieux. C'est ce cheminement vers l'inégalité et le prix qu'il faudra payer un jour pour l'avoir toléré. Finalement, le petit bruit des pantoufles est plus dangereux que celui des bottes. Encore, Louise Deschâtelet, 68 ans, comédienne, chroniqueuse au Journal de Montréal, animatrice de l'émission Le Confident, diffusée à l'antenne de MaTV. Entre les routes en décomposition, le pont Champlain qui menace de s'écrouler, les taxes qui montent en flèche, les lignes de métro qui nécessitent des soins d'urgence et les nids de corruption qui n'en finissent plus de s'étaler au grand jour, le choix ne manque pas pour nourrir notre indignation. Et saviez-vous que s'est installé insidieusement un phénomène de pauvreté qui atteint désormais les citoyens sans emploi? Comment est-ce possible dans une société d'abondance comme la nôtre? Quand nous attaquerons-nous à l'objectif tant souhaité d'une meilleure répartition des richesses? À quel calende grec allons-nous remettre notre devoir de travailler au droit à une vie égale pour tous? Oui, tout cela m'indigne au plus haut point. Véronique Morel, 65 ans, secrétaire juridique à la retraite. J'en ai contre un système qui permet à certains de quitter leur poste avec de généreuses indemnités de départ, sous prétexte qu'ils ont atteint des rendements exceptionnels. Pourquoi l'honnête ouvrier d'usine, qui a passé toutes ses années actives à accomplir un travail consciencieux, se retrouve-t-il souvent sans fonds de retraite? Ne mériterait-il pas, lui aussi, pareille indemnité de départ? Cette attitude du « deux poids, deux mesures », ça me scandalise. Annie Marlot, 40 ans, naturopathe et intervenante en relation d'aide. L'injustice, souvent trop grande, trop présente et qui touche toutes les classes de la société. Une façon d'enrayer l'injustice? Aucune. Il y en aura toujours, car bien souvent, c'est une question de perception. Et les perceptions varient d'un individu à l'autre. Si on pensait un peu plus avant de parler ou de faire certaines interventions, si on s'interrogeait davantage avant d'accepter d'entendre tel ou tel message ou de vivre de telle ou telle façon. Se soucier plus d'autrui, c'est se soucier de soi, se responsabiliser et se regarder dans le miroir. Arrêtons de nous dire « tant pis, on s'en fout ». Maurice Gendron, 72 ans, retraité. Ce qui m'indigne, c'est notre inconscience. Les machines à penser de nos sociétés nous entraînent à choisir notre confort et notre indifférence. Indifférence qui tue les enfants, les femmes et les hommes en Syrie. Le pays est détruit. Est-ce ainsi que vivent les hommes, avec un fusil dans la maison, dans des pays qui produisent des armes, en achètent, en vendent, en marchandent? Je m'indigne avec Pierre Rabhi, l'arme de destruction massive sur la planète, et le lucre, la finance glorifiée par la bourse. Enfin, Gina Jean, 42 ans, adjointe administrative à la direction des services éducatifs de Coudjouac. Je suis indignée au plus haut point par la stupidité généralisée. Celle des gens pour qui tout le monde est beau, tout le monde est fin. Celle des personnes qui passent des heures à ergoter sur leur souper, la méthode de cuisson, les épices, la sauce. Celle des autres qui restent là à les écouter. Stupidité aussi des zélés qui arrivent au travail à 7 heures parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Tant d'exemples me viennent à l'esprit. Je suis peut-être un peu aigrie, mais je suis surtout indignée d'être obligée de composer avec cette gangrène du stupide. J'imagine que je devrais m'indigner des massacres interplanétaires, mais au jour le jour, c'est la stupidité bête et insipide qui m'agresse. Voilà donc, et vous, qu'est-ce qui provoque votre indignation? C'était donc dans la revue Le Bel Âge d'avril 2015, témoignage recueilli par Julie Stanton.
Il y a les mots qui amusent. excuser ceux qui abusent. Les mots qui blessent comme autant de morsures. Les mots qu'on pleure et crache en venin dans le chagrin. Et ce qu'on échange en poignée de main. Il y a les mots qui nous lient sous le sceau du secret. Et ce qui déchire et sépare à jamais. Les mots qui nous hantent pour un instant de folie. Ouais. Qui disparaissent dans l'oubli, dans tous ces mots qui m'entourent et m'appellent. J'entends des enfants jouer dans la rue. Je vois des ponts bâtis au bout des ors, au bout des chaînes.
Eh bien, en voiture tout le monde, je plonge dans la revue Protégez-vous, on parle des autonomes et d'occasion, et c'est le guide annuel. Imaginez-vous que plus de 300 modèles ont été évalués, et je ne vous parlerai pas des 300 modèles ce matin.
Quel casse-tête!
Ouais. Et combien de catégories d'auto, de véhicules ont-ils été évalués? Alors, imaginez-vous qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les VUS, les compacts, les sous-compacts, les camionnettes, les intermédiaires, les deluxe, les fourgonnettes et les sportives. Rien de moins. Et quelle est votre couleur préférée? Il y a des couleurs différentes dans les automobiles, dans les véhicules. Eh bien, ce n'est pas encore le vert, mais il y a des véhicules verts. Et nous allons commencer, ben oui, ces véhicules verts.
C'est le thème aujourd'hui.
Ça arrive en ville, comme dirait l'autre, des véhicules verts. Et quel est le supposé meilleur qui a passé le test de l'évaluation? Eh bien, dans les véhicules verts, la Chevrolet Volt.
Ah oui?
Ben oui, on la branche, il y a des volts. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont appelé sûrement. Chevrolet Volt 2015. Ben oui, sûrement, on n'y avait pas pensé. Hein? Alors, au niveau fiabilité, ben, comme il y a absence de plainte, GM offre un bon suivi aux acheteurs de la Volt. Hein? Voilà. Et puis, c'est entre, c'est pas très cher, 34 000 et 45 000 de dollars.
On parle de plainte dans le sens de...
Il y a absence de plainte, donc il n'y a pas de plainte.
Pas de plainte, pas de plainte électrique.
C'est bon.
Pas de plainte électrique, non, c'est pas ça.
Ah, pas des... Bon, en fait.
Non.
Et puis il y a la Toyota, ben oui, la Toyota. Non. La Toyota la plus fiable avec la Yaris, quasi absence de plainte au sujet du système hybride. Et puis, on a évalué ça en parlant de la carrosserie, les occupants, nombre d'occupants, le train de roulement, le moteur, la boîte de vitesse, consommation sur route, consommation en ville et garantie. Et puis, la construction de la Toyota, c'est au Japon. Oui. Rien de moins. Saviez-vous ça qu'on fait un bon nombre de constructions automobiles au Mexique?
Aussi, oui.
Incroyable, non? Oui. Bon, alors, et dans les autos neuves, maintenant, on va y aller par grosseur de voiture, OK? On va commencer par les petites. Alors, quelle est la plus fiable d'après consommateur ici? Protégez-vous. Eh bien, la Honda Fit 2015. Ah, ouais. Très bonne fiabilité des anciennes Fit. Absence de données sur le nouveau modèle. Bon, OK. Alors, la Honda Fit 2015, elle se vend à partir de 16 000 $. Bon. Et puis, il y a la Hyundai. Eh bien oui, la Hyundai. Vous savez que c'est l'Accent et la sous-compacte la plus vendue au Québec.
Elle est bien cotée. Hein?
Ah, avec des ventes au moins deux fois plus importantes que celles de ses concurrentes. Alors, il y a peu de plaintes sur la version actuelle présentée en 2012. Absence de données à long terme sur le groupe motopropulseur. Alors, on y va pour la Hyundai Accent 2015. Et la Kia, je me demandais, la Kia... Eh bien, la Kia, très peu de plaintes à ce jour sur la génération actuelle. Maintenant, il faut faire dégripper et lubrifier les étriers de frein arrière, cependant, pour éviter des réparations coûteuses ultérieures. Mais une fois qu'on sait ça, qu'on fait dégripper et lubrifier, on évite des petits problèmes qui peuvent coûter cher. Il y a une auto qui est pas mal aussi, c'est la Kia Soul. Je ne sais pas si elle passe le test. OK. Et puis, on s'en va dans les petites voitures, toujours dans les autos neuves. Oui, c'est pas mal. Écoutez, il y en a une série, il y en a 300 comme ça. Maintenant, dans les autos neuves compactes. Alors, la meilleure ici que j'ai encerclée sur la Buick Verano, Chevrolet Cruze, Dodge Dart, Ford Focus. Alors, ben, on a la Honda Civic. Hein? Ah ouais. Elle est très bonne. La Civic figure parmi les véhicules ayant les plus faibles coûts d'utilisation. Voilà.
Ça fait très longtemps qu'elle est bonne.
La Civic hybride 2015, la compacte, de 17 000 à 28 000. Ah, oui, oui, là, ça fait 15 ans qu'ils sont en tête de liste. Ils ont été dépassés une année par l'Elantra.
Ah oui, hein?
Oui, mais là, ils sont revenus premiers, là, la Civic. Alors, et la Kia Forte, si. Bonne fiabilité prévue. La Forte ne semble pas connaître de problème du moteur. Alors, donc, ça s'annonce bien pour la compacte Kia Forte et, bien sûr, la Toyota Corolla. Eh oui. Les Corollas sont habituellement très fiables. Des plaintes au sujet des fuites d'huile du moteur, à la tubulure d'admission et au couvercle de la chaîne de distribution ont été rapportées sur le moteur, mais hein, quand même, c'est pas très grave. Et c'est conçu au Canada, cette Toyota. Ensuite, nous allons dans les autos neuves toujours compactes, et voilà, c'était comme les meilleurs. Et puis, ici, nous avons dans les intermédiaires. Bon, Êtes-vous pour les intermédiaires,
je
les compacts?
Pour...
Alors, il y a la Chrysler de 300. Hein? La Chrysler 300 2015. Oui, fiabilité, c'est bon, ça.
Oh.
Oui. Pas donné, par exemple, hein, une auto 39 000 à 52 000 $.
On est sorti des compacts.
Oui, oui. Ouais, ben, on est dans les intermédiaires maintenant. Et puis, il y a bien sûr la fameuse Honda Accord, Accord hybride 2015. Elle devrait s'apparenter à celle de l'ancien modèle, c'est-à-dire excellente.
Ah ouais.
Et oui, la transmission à variation continue n'a pas fait ses preuves, cependant. Alors, à nous de faire de la tester. Et puis, il y a là, les intermédiaires aussi, on continue, la Kia Optima, Optima hybride, la Kia. Oui, c'est bon. Et puis, il y a également la Toyota Camry.
Ah oui?
Alors, les Toyota, les Honda, je pense qu'on peut y aller à fond de train là-dedans.
Oui, ouais, mais il y a les Coréennes qui remontent, hein, qui remontent la pente.
Oui, 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 oui. Et puis ensuite, dans les autos ici intermédiaires, il y a la Acura. La Acura, alors là, ça, bonne fiabilité prévue. Bon, et puis après ça, on s'en va dans les utilitaires sport. Les utilitaires sport. Qu'est-ce qu'on a dans les utilitaires sport? Eh bien, on a la Honda CR-V 2015.
Honda, oui.
Voilà. Alors, c'était dans les autos neuves. Oh, bon, on est rendu dans les utilitaires sport. On pourra continuer éventuellement pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche.
C'est bon.
Merci.
Alors, quelques brèves. À propos d'un nouvel arme antibiotique, une équipe de chercheurs américains et allemands a mis au point un nouvel antibiotique baptisé Texobactine pour lutter contre le staphylocoque doré, le Clostridium difficile, vous savez, ce fameux C. difficile qu'on retrouve dans nos hôpitaux, et d'autres souches bactériennes particulièrement difficiles à traiter. C'est la première fois qu'on découvre une nouvelle famille d'antibiotiques depuis 1987. La substance a été jusqu'à maintenant testée sur les souris et pourrait être utilisée sur l'humain d'ici 2020. Mmh. Bon.
L'activité physique, la sédentarité tue deux fois plus que l'obésité. Saviez-vous ça? Ulf Ekelund, épidémiologiste et professeur à l'Université de Cambridge en Angleterre, qui dit ça, en collaboration avec une cinquantaine de chercheurs européens, il a suivi 334 000 personnes pendant 12 ans. L'équipe a réuni les indices de masse corporelle des participants et la fréquence à laquelle ils pratiquaient une activité physique. Les conclusions sont publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition. La sédentarité tue deux fois plus que l'obésité.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et je me tourne maintenant vers le monde des affaires par l'intermédiaire des chroniques de Pierre Duhamel et de Cathy Noël. C'est dans l'actualité. Dans l'actualité du 1er avril, Pierre Duhamel signe un texte intitulé « Quand le patron doute ». Habituellement, il ne doit pas douter, le patron. Il doit pas être décisif, ma femme. Des traits de caractère s'imposent rapidement quand on pense aux présidents des grandes entreprises. Ce seraient des décideurs débordants d'une grande confiance en eux qui agissent rapidement et avec autorité. Plus que la concurrence ou les conditions changeantes du marché, le doute serait leur pire ennemi. Il y a pourtant d'autres modèles de président-directeur général plus introspectifs et analytiques qui prennent bien leur temps avant de bouger leurs pièces et de porter le coup gagnant. Yvon Charest, président et chef de la direction de l'Industrielle Alliance, est de ceux-là. L'Industrielle Alliance, c'est une compagnie d'assurance qui est au quatrième rang des plus importantes compagnies d'assurance de personnes au Canada, avec ses 4 millions de clients et ses 10 % du marché national. L'assureur Vie est gestionnaire de patrimoine, dont le siège social est à Québec, est aujourd'hui présent partout au Canada et même aux États-Unis. Alors, M. Yvon Charest, actuaire de 58 ans, qui a passé toute sa vie professionnelle auprès de l'industrielle Alliance, est toujours souriant et dégage une très grande sérénité. Pourtant, il dit ne pas aimer faire les choix souvent déchirants et nécessaires avec lesquels il est aux prises. Faut-il solidifier notre bilan et notre cote de crédit ou faire une acquisition qui risque de les fragiliser? Peut-on à la fois penser à long terme et prendre des risques à court terme? Doit-on embaucher dans une division ou acquérir de nouvelles technologies dans une autre? Devant de telles décisions, le doute cartésien m'habite souvent et longtemps, me confie-t-il. Il faut constamment faire des arbitrages et apprendre à dire non quand on occupe ce poste. Cela m'est difficile parce que je suis sensible aux besoins des gens. Pour le bien commun, je dois néanmoins faire des choix qui ne plairont pas à tous. Les arbitrages finaux, cela ne se délègue pas, reconnaît-il. Yvon Charest est aussi le premier dirigeant d'entreprise que j'interviewe en 35 ans de métier, qui me parle de ses zones d'ombre, une thématique chère à Carl Gustav Jung, l'un des fondateurs de la psychanalyse. Je suis quelqu'un d'analytique et j'aime l'harmonie. Ma zone d'ombre, c'est que j'ai besoin de prendre du temps pour rendre une décision. Pour accélérer la cadence, je dois en être conscient et m'entourer de gens qui ne me ressemblent pas, qui, eux, ont l'esprit, ils se décident plus rapidement. Yvon Charest a réalisé une vingtaine d'acquisitions depuis qu'il est aux commandes de l'industrielle Alliance en 2000. Depuis 10 ans, l'actif géré et administré par la compagnie d'assurance est passé de 28 milliards à 106 milliards de dollars et les profits ont plus que triplé depuis 2011, au grand bonheur des investisseurs qui ont vu le titre s'apprécier de 33,9% au cours des 5 dernières années. Et ce n'est pas fini. Nous avons 650 millions de dollars en capital excédentaire pour faire des acquisitions, dit-il. Yvon Charest se dit capable de composer avec une certaine dose d'ambiguïté, mais son bilan montre qu'un PDG qui ne craint pas le doute et est encore moins paralysé par lui, ça peut exister et ça se rencontre dans le monde des affaires quand le patron doute, par Pierre Duhamel dans l'actualité. L'actualité du 1er avril. Maintenant, dans l'actualité du 15 mars, c'est Cathy Noël qui souligne le travail d'un groupe d'entrepreneurs émergents. Ce sont les entrepreneurs dits sociaux. Un entrepreneur, ça aime réparer ce qui est brisé. Aucun livre de gestion ne résume mieux les motivations d'un entrepreneur que cette réflexion de Guillaume Bouchard, chef de la direction d'e-Prospect, une agence de marketing web de Montréal. Ce diplômé de HEC Montréal a fait fortune en 2013 en vendant son agence NVI au géant de la publicité japonaise Dentsu, qu'il a fusionné avec sa filiale e-Prospect. À 33 ans, Guillaume Bouchard dirige sa division canadienne, mais il a un autre projet dans ses cartons, car il fait partie d'une minorité en croissance dont on dit qu'elle pourrait révolutionner le capitalisme, les entrepreneurs sociaux. La prochaine chose que l'homme d'affaires a envie de réparer, entre guillemets, ce sont les océans. Il imagine déjà une flotte de bateaux avec à leur bord les meilleurs scientifiques dont les découvertes seraient relayées sur sauvonslesocéans.com, nom de domaine qu'il a déjà réservé. Quand quelqu'un devient millionnaire, ça devrait profiter à l'ensemble de l'humanité, dit-il. Ainsi, Guillaume Bouchard ne créera pas de fondation, ni d'organisme sans but lucratif, inspiré par Boyan Slat, un Néerlandais de 20 ans qui a inventé un système pour recycler le plastique qui pollue les océans. Le Québécois veut trouver et commercialiser une technologie verte rentable qui lui permettra de réinvestir les profits dans cette cause. Dans l'une des rares études sur le sujet, le cabinet McKinsey établi à New York a évalué les retombées économiques de 10 entrepreneurs sociaux français dans divers domaines, santé, distribution alimentaire, etc. Grâce à eux, l'État a économisé 5 milliards d'euros par année en allocation de chômage, en hébergement d'urgence, en soins de santé. Les gouvernements ont donc avantage à s'intéresser aux entreprises sociales. Pourtant, au Québec, aucune stratégie n'existe pour les soutenir, ni même les répertorier. Elles se fondent dans le vaste secteur de l'économie sociale qui regroupe autant des coopératives que le plus petit OSBL qui tente d'aider les décrocheurs. L'Ontario est beaucoup plus actif dans le domaine et a mis en place l'Ontario le Bureau pour l'entrepreneuriat social. Avec le secteur privé, le gouvernement ontarien a lancé le fonds Catapulte qui donne accès à du mentorat et à du crédit et du microcrédit. Alors, c'est un texte de Cathy Noël qu'on peut lire dans l'actualité du mois de mars, Les entrepreneurs sociaux à la rescousse. Thank you.
Maintenant, la fée qui humanise les poupées. Cette fée s'appelle Sonia Singh. En effet, Sonia Singh a un plaisir coupable. Elle achète des Barbie et des Bratz de seconde main et les bichonne en cachette. J'étais gênée de jouer avec des poupées à 34 ans, confie-t-elle à une caméra de télé australienne. Encore une télé-réalité freak show ? Non, tout le contraire. Ce que cette mère de 34 ans fait est vraiment remarquable. Elle redonne vie à des poupées défraîchies en les humanisant. Pensez, transformation extrême, mais à l'envers. Elle démaquille les poupées, repeint des yeux et une bouche moins stylisée, fait des coiffures simples et change les vêtements. Bref, elle transforme les princesses bling-bling en fillettes. Ce n'était qu'un passe-temps, pas une prise de position au sujet de l'hypersexualité des jeunes filles. Son projet était tout au plus écologique, recyclé, réutilisé. Or, les images parlent d'elles-mêmes. En redonnant un coup de jeune aux bras de ces Barbie, elles montrent à la fois ce qu'elles sont et ce qu'elles pourraient être. Ces clichés avant et après sont saisissants. Et ils ont fait le tour du monde. Sonia Singh est même un peu dépassée par l'accueil fait à ses poupées. Le reportage que la télé australienne a fait sur elle a été vu près de 1 million de fois sur YouTube. Ses pages Facebook et Tumblr sont très fréquentées. Quantité de gens aimeraient mettre la main sur l'une de ces jolies Barbie revues et corrigées, faites à la main. Il n'y a pas que les adultes qui craquent pour ces créations. Les enfants aussi les trouvent chouettes. « Tu peux imaginer qu'elle a le même âge que toi », dit une fillette. « Celle-là ressemble un peu à mon amie Maggie », constate une autre jeune fille dans le même reportage. Et c'est vrai, une fois démaquillée et repeinte, ces poupées ont l'air plus joyeuses. Ce week-end, l'une d'entre elles a été mise aux enchères dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Elle a été adjugée 1 875 $ australiens, c'est-à-dire 1 825 $ canadiens, et la moitié de cette somme doit être remise à une organisation australienne qui milite pour les droits des femmes. Les poupées qu'elle avait mises en vente sur sa boutique Etsy plus tôt cet hiver s'étaient quant à elles envolées en un éclair pour des sommes entre 70 et 160 dollars. Sonia Singh a été prise par surprise, mais elle n'a pas l'intention de se transformer en multinationale. Son mari et elle gèrent les demandes d'entrevues comme ils le peuvent. Elle a finalement reporté celle qu'elle devait accorder à la presse plus, avec les moyens du bord. Surtout, plutôt que d'attendre qu'elle fasse d'autres poupées, elle invite tout à chacun à faire comme elle. Pas chiche pour deux sous, elle donne même ses secrets sur YouTube. Et la poupée Lamili, l'anti-Barbie, la connaissez-vous ? En gros, c'est vraiment l'anti-Barbie. Cette poupée a été créée par un jeune Américain qui, après avoir creusé la question de l'image corporelle, a eu envie de faire la démonstration que la normalité, c'est beau. Partant des mensurations moyennes d'une Américaine de 19 ans, il a conçu une poupée à l'air sympathique, sportif et qui pourrait être votre sœur, votre mère ou la voisine d'à côté. Pour pousser le réalisme un peu plus loin, il est même possible d'acheter des autocollants pour montrer ce que notre fixation sur la beauté et la perfection ne veut pas voir. Des taches de rousseur, de l'acné, de la cellulite et des taches de gazon. Les enfants ne sont pas dupes, ils voient bien la différence avec Barbie. Et on dirait que c'est pour ça qu'ils ont un faible pour Lamili. Et ces poupées-là sont en vente au coût de 25 $ US. Alors c'était La fée qui humanise les poupées, écrit par Alexandre Vigneault dans la presse plus du 11 mars. Un cocon pour se sécuriser. Un nouveau guide visant la relaxation des enfants émotifs ou aux prises avec des épisodes émotionnels intenses vient de paraître chez Marabout. Stéphanie Couturier, psychomotricienne et sophrologue à Paris, a élaboré une méthode douce pour venir à bout des cauchemars et des colères. Dans son livre « Mon cours de relaxation pour les enfants », Madame Couturier propose de briser les problèmes de sommeil, les peurs, les pleurs et les angoisses menant parfois à la colère par un enveloppement corporel et de la visualisation. Mon livre s'adresse aux jeunes, aux parents fatigués qui n'arrivent plus à calmer les pleurs et les peurs inexpliquées, souligne la psychomotricienne. Madame Couturier reçoit les enfants dans son cabinet et travaille avec eux la réassurance en les enveloppant d'abord dans une couverture polaire, des pieds à la tête, comme dans un cocon. Je travaille avec la sensation de l'enveloppe corporelle. Ce sont des enfants qui se sentent agressés corporellement. Elle s'est rendue compte de cette façon Elle s'est rendue compte que de cette façon, les problèmes de sommeil, les peurs et les colères s'amenuisaient. De cette manière, les enfants se relâchent tout en se sentant maintenus. On travaille vers l'intérieur du corps, précise Madame Couturier. Elle donne aussi d'autres moyens d'enveloppement visant à rassurer l'enfant, le replonger dans la sécurité corporelle qu'il a vécue quand il était bébé. C'est aussi par la visualisation qu'elle complète ses interventions. Le processus, connu en sophrologie, cherche par un travail sur les images à modifier ce que l'on cherche à changer. Le livre contient d'ailleurs un CD de textes de visualisation qui sont nés pendant une séance en présence d'un enfant. Ces textes, classés par thème, stimulent l'imaginaire et aideront les petits à passer par-dessus leurs émotions. Les plus populaires, la fée lunaire, le loup et la sorcière, le sac à peur ou encore les étoiles filantes. Voilà, c'était donc à propos du livre « Mon cours de relaxation pour les enfants ». Exercer ces textes pour apaiser les émotions et faire grandir la confiance en soi, écrite par Stéphanie Couturier et publiée chez Marabout. Et le texte était écrit par Marie-France Léger dans La Presse Plus du lundi 16 mars.
Ses yeux sont de printemps qui me font sourire et ça me fait rire. Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. C'est un tourbillon, un grand vertige complètement doux. On dit qu'en haute voltige, on peut tomber et se rompre le cou. C'est pas mon premier vol, arrêtez bande de jaloux. C'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. En une folle frénésie, l'amour et les guides clairs et nos deux corps sont amphibies. La terre est un brasier, mais pour un moment l'oublier, c'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Qu'elle ne plaise à personne, ni du visage, ni de l'esprit. Restez en votre automne, l'été tout lent me fait plus envie. Persuadez-vous de mes deux yeux fermés, j'affirme en toutes ces idées. T'es la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Assombrir quelques beautés, des êtres qui ont peur, qui veulent vous en contaminer. Me protéger des loups, moi qui n'en compte que les amis. T'es la plus belle saison de ma vie. T'es la plus belle saison de ma vie. Nous serons vieux et frêles, peut-être même séparés. Nos têtes pêle-mêle, incapables et usées. Mais aujourd'hui je t'aime, aujourd'hui pour l'éternité. T'es la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison.
Et nous poursuivons dans la revue Virage. Vous savez que c'était la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier.
Oui.
Et puis ça va se terminer. Le mois de mars va se terminer. Alors nous terminons l'émission avec un article qui parle de la femme. Je suis femme. Ce sont des témoignages de Dominique Michel, Jocelyne Cazin, Sophie Langlois et Francine Laplante, et l'article a été écrit par Sophie Gagnon. Bon, Alors, ben, jointe en Floride, où elle fuit l'hiver, où elle a fui l'hiver, notre chère Dodo est toujours aussi pétillante du haut de ses 82 ans. Et très vive, elle a une opinion bien arrêtée sur tout et assume en riant un rare senior moment. Lorsque sa mémoire tarde, ne serait-ce que quelques secondes à mettre un nom sur un visage. Et maintenant, à la vraie de vraie retraite, elle parle avec passion de la cause qui donne un sens à sa vie depuis que la sienne a été menacée par le cancer du côlon, la création du Centre intégré de cancérologie de l'hôpital Maisonneuve, Rosemont. J'ai été traité à cet hôpital et j'ai pu constater que les besoins sont criants. Ils le seront de plus en plus en raison de l'augmentation fulgurante des cas de cancer prévus au cours des 7 prochaines années, plus particulièrement parmi la clientèle desservie par cet hôpital de l'Est de Montréal. C'est ma cause et j'aimerais que ce soit aussi celle du gouvernement. Et pour ce faire, il faut que la population montre qu'elle est massivement derrière ce projet par des dons. Je ne lâcherai pas tant qu'on ne procédera pas à la première pelletée de terre. Elle réitère à tout vent que chaque don compte. Alors, pour l'aider, c'est j'appuiedodo.com. Sa vision du féminisme, de façon générale, je trouve dommage que les femmes soient encore obligées de réclamer leur juste place dans la société. Et s'il y avait un respect profond entre les individus, ce serait réglé. Sa leçon de vie, j'ai travaillé fort dans ma vie et j'ai toujours été à mon affaire. Et dans la vie, qu'on soit homme ou femme, il faut s'aider soi-même. Et ce modèle, ben, c'est Thérèse Casgrain, à qui l'on doit l'obtention du droit de vote pour les femmes au Québec, et que Dominique Michel a fréquenté, et ensuite Pauline Marois et la femme d'affaires Christiane Germain. Jocelyne Cazin, elle, et grâce à son livre « J'ose déranger », paru l'automne dernier, les gens sont de plus en plus nombreux à oser déranger l'ex-journaliste, l'animatrice et présentatrice de nouvelles vedettes de TVA, Jocelyne Cazin. Et c'est tant mieux, puisque « retraite active » est en quelque sorte son mot « clic ». Elle qui veut demeurer encore et toujours au cœur de l'action et surtout pas en retrait. Après une carrière ayant débuté à une époque où les femmes se faisaient rares dans les salles de nouvelles. Conférences, tournées dans les universités du troisième âge, entretiens littéraires et salons du livre sont le pain quotidien de l'auteur de 64 ans par les temps qui courent pour son plus grand bonheur. Faisant partie des membres fondateurs de l'Institut de la confiance dans les organisations, ICO, elle croit que pour vaincre la morosité ambiante, cette espèce de déclin qui frappe notre société, il faut au plus vite que chaque groupe dans son milieu retrouve confiance dans le groupe avec lequel il est en relation. Cela vaut pour toutes sortes d'organisations, patrons et syndiqués, politiciens et électeurs, administrateurs bénévoles et membres d'organismes communautaires, etc. Madame Cazin invite les personnes intéressées par la question à assister au premier sommet international de la confiance dans les organisations en mai prochain. Ça s'en vient. Ça s'appelle Institut de la confiance, tradeunionsommet.org. Et sa vision du féminisme? Dans mes années comme animatrice et comme présentatrice de nouvelles, j'étais moins bien payée que mes collègues masculins. C'est choquant de constater qu'encore aujourd'hui, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes et que le pouvoir est encore très masculin. Sa leçon de vie, nos façons d'être entre hommes et femmes ont régressé et nous sommes de plus en plus nombreux à être seuls devant nos tablettes. Est-ce cela la libération? Et ses modèles, Michèle Thibaudeau-Deguire, présidente du CA de l'École polytechnique et ex-PDG de Centraide du Grand Montréal, et Mylène Paquette, qui a traversé l'Atlantique à la rame. Et Francine Laplante, elle, tiens, tout a débuté par ce pacte avec la vie. Tu redonnes la santé à mon fils et je consacre le reste de mes jours à amoindrir les souffrances des enfants malades. La vie a fait sa part. À l'issue d'un long combat, le petit François-Carl Viau a recouvré la santé et Francine Laplante a fait la sienne. Les deux fondations qu'elle a créées ont permis de récolter jusqu'à présent plus de 8 500 000 $ pour les enfants et les jeunes adultes aux prises avec le cancer. Mon bénévolat le plus significatif demeure l'accompagnement d'enfants en fin de vie. Ça me permet de rester en contact avec les vraies choses. Je suis aussi très troublé quand je pense aux enfants abusés, à ceux qui ne mangent pas à leur faim, même au Québec, et aux conséquences fâcheuses de l'individualisme des gens, raconte cette fonceuse et bourreau de travail sur les bords qui avoue avoir un seuil de tolérance de moins 40 envers les choses futiles. Et on la comprend, car en plus d'avoir 5 enfants, dont 4 adoptés, et d'être une bénévole totalement dédiée à ses 2 autres bébés, c'est ainsi qu'elle nomme ses fondations. Voilà. Alors, sa vision du féminisme, il faut adopter l'attitude générale que tous sont égaux, hommes ou femmes, et que chacun doit pouvoir prendre la place qu'il souhaite dans la société et ses modèles. Toutes les mamans qui accompagnent leur enfant gravement malade, sa mère qui a élevé ses 12 enfants sur la coche, l'oncologue Caroline Laverdière et la juge André Ruffo.
Quelques brèves. Brancher le cerveau. De faibles signaux électriques envoyés au cerveau peuvent améliorer l'équilibre et les capacités motrices des patients atteinte de la maladie de Parkinson, ont observé des chercheurs suédois dans le cadre d'une petite étude menée auprès de 10 patients. Pour évaluer ces effets à long terme des courants électriques, les chercheurs s'apprêtent maintenant à tester un stimulateur portatif mis au point en collaboration avec la NASA. Installé à la taille, le dispositif est relié à des électrodes fixées à la tête. Si les résultats sont concluants, l'équipe de Philippe Bergquist de l'Université de Göteborg espère proposer d'ici un traitement aux patients d'ici 5 ans.
Aux États-Unis, un petit rond-point international, eh bien, un petit coin de rue. Les défenseurs des droits des personnes itinérantes militent à Washington pour que des toilettes publiques propres, sûres et accessibles en tout temps voient le jour dans la capitale américaine. Et pour mener à bien cette campagne, les militants ont travaillé main dans la main avec des sans-abri. Et c'est une première sur le continent. Des toilettes similaires avaient déjà été implantées dans d'autres villes, comme à Portland, en Oregon, où le concept est né. La Portland Loo a d'ailleurs déjà remporté un grand succès à l'extérieur des États-Unis. Après leur installation à Victoria, en Colombie-Britannique, ces trônes publics ont même été élus les meilleures toilettes du Canada. Oui.
Intéressant. Et maintenant, il n'y a plus de service à ce numéro. La multinationale Coca-Cola vient d'éliminer toutes les boîtes vocales de son siège social. Elle invite désormais les gens à contacter son personnel par courriel ou par les réseaux sociaux. Selon Coke, cette mesure permettra d'économiser environ 100 000 dollars par année et augmentera la productivité des employés.
Alors, les autorités mexicaines ont récemment dû rendre des comptes devant un comité des Nations Unies sur les disparitions forcées. Ce fléau qui a laissé les familles de plus de 23 000 personnes disparues entre 2007 et 2014 dans le plus grand désarroi. Et la découverte d'une fosse commune près d'Igala, à une centaine de kilomètres de l'école où avaient disparu 43 élèves, à l'automne dernier, avait interpellé l'opinion publique à l'échelle planétaire. C'est la première fois que le pays doit s'expliquer devant un comité depuis qu'il a signé la Convention contre les disparitions forcées qui est entrée en vigueur en 2010.
Et maintenant, peinture à numéro. De la Joconde de Léonard de Vinci au portrait de l'artiste de Vincent Van Gogh, des peintures célèbres sont revisitées de façon inusitée par l'artiste Nick Smith. Le Britannique utilise des échantillons numérotés de couleur Pantone, en usage dans le domaine de l'imprimerie, entre autres, pour reconstituer ses tableaux.
Et oui, et puis on met les points sur les i pour terminer tout ça. Quand on habite dans un bidonville, chaque jour peut s'apparenter à une véritable lutte pour la survie. Les femmes de Katanga, en Ouganda, un des quartiers les plus défavorisés de Kampala, le savent mieux que personne. C'est la rage au ventre qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans la boxe pour se défendre de la violence qui fait rage et peut-être se sortir de la misère. Les boxeuses d'un des clubs de Katanga ont participé au dernier championnat du monde de boxe féminin en Corée du Sud, donnant l'espoir à leurs consœurs de devenir un jour, elles aussi, des athlètes professionnels. Eh bien voilà, c'est ce qui complète Kiosque Magazine, accompagné de Roger Roy, qui s'est absenté un peu plus tôt, et de Franceline Neuviard, et Serge Hamelin qui vous dit au revoir et joyeuse Pâques.
Oui.
Nous serons absents la semaine prochaine, nous.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, oui. Donc, on se revoit dans deux semaines, donc.
Alors, au revoir.
Alors, à bientôt.
À bientôt.